C'est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l'origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l'avenir, et qui cherche en même temps, simultanément, à traiter des problèmes qui nous apparaîtraient aujourd'hui à la lumière de notre pensée scientifique comme tout à fait hétérogènes, différents les uns par rapport aux autres, à les traiter comme si c'était un seul problème et qui admettait une seule réponse.
Les rencontres de la Pommerie, récits et logique des mondes, conférences, concerts, ateliers, du 24 au 29 août sur la ferme de La Chaux. Tout le programme sur lapommerie.org.
Bienvenue Élie Conques et Natura Ruiz dans le magazine de Radio Assivière. Bonsoir.
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 Et bonjour si vous nous écoutez pour durant la rediffusion du magazine qui se fait tous les matins à 8h et tous les midis. Vous organisez donc à La Pommerie, à La Chaux, sur la commune de Jonsiou-Pigerol, Récits et logique des mondes, des rencontres qui se déroulent de mercredi 24 août, mercredi de la semaine prochaine, jusqu'au dimanche et même jusqu'au lundi, pour ensuite imaginer la suite des rencontres. Le programme est très dense, très riche. Nous avons le temps de le présenter pour donner envie aux auditeurs de Radio Assivière de se rendre à La Chaux la semaine prochaine. Peut-être qu'il faut commencer par présenter la Pommerie, tout simplement, qui est un... Comment présenter la Pommerie? C'était avant à Saint-Stier, ça a déménagé. Qu'est-ce que c'est?
La Pommerie, c'est une résidence d'artistes, initialement créée en 1995, par son fondateur, un Hollandais, Hubertus Nolen, qui est venu s'installer sur le plateau de Millevaches. Il a vécu comme ça pendant une quinzaine d'années, décédé. Décédé au milieu des années 2000. Cette association a été reprise par une équipe et à ce jour est devenue une association orientée création sonore, c'est-à-dire résidence d'artistes orientée création sonore. Et depuis une période, depuis une dizaine d'années, elle organise également des conférences en sciences humaines et des rencontres annuelles.
Donc ce sont les cinquièmes rencontres annuelles de la Pommerie.
Les sixièmes.
Quels thèmes vont aborder ces rencontres?
Alors, disons, les rencontres de la Pommerie... initialement, les rencontres s'appelaient rencontres à écologie. C'est la seconde année qu'on appelle ça les rencontres de la Pommerie, qui nous semble être une façon plus générale de nommer les choses. Les rencontres ont été créées il y a 7 ans, et depuis 7 ans, c'est un ensemble de conférences qui sont organisées autour d'un week-end, qui a été étendu à une semaine, sur des questions qui ont à voir avec l'écologie, traité depuis, en général, depuis la philosophie et les sciences humaines. C'est également des rencontres qui sont des moments qui nous permettent et qui nous autorisent à inviter des créateurs sonores pour différents types de performances, et généralement des performances en plein air, comme ça sera le cas cette année.
Le samedi et le dimanche sont réservés aux conférences, tandis que les 3 premiers jours ont plutôt lieu, mercredi, jeudi, vendredi, des ateliers, des concerts et des performances sonores. Dans ces conférences, on peut quand même dire qu'il y a des chercheurs qui sont des explorateurs, qui viennent, je ne les connais pas, vous les avez choisis, vous nous direz comment, mais qui sont... Qui reviennent de recherches en Papouasie, en Amérique du Nord, auprès d'Indiens, en Australie, etc. Comment vous avez choisi toutes ces personnes? Est-ce que c'est vous, juste vous deux d'ailleurs, qui le faites, ou une équipe plus large? Comment ça se passe?
Les rencontres, c'est essentiellement Natura et moi qui les organisons. Ensuite, c'est jamais 2 personnes, c'est toujours une nébuleuse de personnes avec qui on travaille, qui sont du plateau ou qui sont d'ailleurs. C'est un travail de réseau toujours, hein, ce type de choses, ce type d'organisation d'événements.
Ouais, en particulier cette année, puisque depuis l'année dernière et cette année, on essaye de développer ça aussi un peu plus. On est vraiment sur le site de la ferme de la Chaux. Donc, du coup, les associations qui sont présentes, en l'occurrence, cette année, ça sera plutôt le Champ des Possibles et la ferme de la Chaux, participent aussi aux rencontres et proposent aussi des personnes.
Samedi après-midi, dans la table ronde de la première journée des conférences, Frédéric Lagarde, qui est chercheur et qui vit à La Chaux, juste à côté de vous, interviendra sur, avec comme thème, les landes, les tourbières, les espaces animaux et végétaux et les changements globaux, 10 ans d'études des milieux. Et sa compagne, Joanna Corbin, présentera, d'après le programme toujours, ses pratiques agricoles sur la ferme de La Chaux et propose une balade sur le site. C'est bien ça ?
Oui, pour emboîter le pas à ce que vient de dire Natura, effectivement, les rencontres s'appelaient les rencontres arrêt écologie, puis se sont appelées les rencontres de la pommerie, et il n'est pas certain que ça reste comme ça, que ça ne devienne pas les rencontres de la Chaux un jour. Donc l'idée est pour cet après-midi qu'on a rassemblé sous le terme un peu biodiversité d'inviter un certain nombre de chercheurs à travers, je dirais, guidés par le travail que réalisent Johanna et Frédéric sur le site de La Chaux. Donc études des milieux, travail agricole en rapport avec une recherche en biologie.
Pour rester sur les personnes qui participent à ces rencontres et qui sont d'ici ou des alentours, on rappelle que ces rencontres commencent mercredi 24 août après-midi par une présentation des ateliers de géographie populaire, une nouvelle session de l'atelier de géographie populaire qui est là aussi un réseau de personnes qui cartographient le territoire de façon politique ou poétique depuis quelques années déjà. Où en sont-ils ?
Alors, les ateliers de géographie populaire, c'est un collectif d'associations qui a lancé ce projet à partir d'initiatives d'habitants du plateau. Enfin, disons que c'est un collectif d'associations qui est porteur du projet actuellement et qui existe depuis 2012 et qui intervient à plusieurs reprises. L'atelier, il y a eu des sessions qui ont été organisées lors de Ciel ouvert qui avait lieu à Plernertige en juin. Et on va cette année, disons que les rencontres de la pommerie cette année sont l'occasion d'ouvrir une des dimensions de l'atelier, de réflexion sur les lieux que nous habitons. Et donc ce sera à la fois l'occasion de traiter un certain nombre de notions pendant cet atelier. Je vais peut-être décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que les ateliers de géographie populaire ensuite. Et aussi d'ouvrir sur la façon dont on aimerait constituer un groupe de travail qui pourrait se retrouver dans le cadre des ateliers de géographie populaire ensuite. Et donc l'atelier de géographie populaire, ça a été pour le moment essentiellement moments, des rencontres, alors des rencontres avec des personnes qui pratiquent la cartographie ou des ateliers menés par les différentes personnes du collectif pour réaliser des cartes et des cartes subjectives. L'idée c'est de pouvoir inscrire une dimension perceptive, une autre façon de représenter l'espace que un travail soit d'expert, soit de géographe, un autre rapport à l'espace que l'espace topographique.
Parmi les performances artistiques et les concerts qui vont se dérouler, vous avez amené quelques extraits sonores qu'on va écouter. On est assez content d'avoir à côté de chez nous comme ça des créateurs sonores et vous qui invitez des créateurs sonores. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Vincent Eplay dont on va entendre quelques minutes de son avec Spectrologie Insulaire ? Qui est-ce ?
Alors Vincent Eplay, c'est une des figures de la musique électronique française. Il a travaillé avec David Fenech en particulier. Et l'extrait qu'on va écouter est un morceau qui est proche de ce qui sera présenté lors de la Pommerie. Depuis une petite dizaine d'années, ces concerts sont en quelque sorte des concerts qui utilisent la vidéo, et qui utilisent une histoire, une mémoire des formes électroniques. Donc en quelque sorte, c'est les traversées des ondes et de la musique fabriquée avec de l'électricité. Donc le terme de mnénotechnie sonore et musicale, qui est ce qui sera programmé dans le cadre des rencontres.
Jeudi soir à 21h.
Voilà. C'est une œuvre sonore à partir d'éléments historiques de la musique électronique prise au sens le plus large, c'est-à-dire qu'est-ce que le son d'un émetteur radio a produit dans les années de la guerre froide, comment les machines, les premiers ordinateurs, quel type de son ils fabriquaient, etc. Et donc à partir de cette histoire sonore, ils fabriquent une musique.
On connaît tous les fameuses ondes d'interférence du téléphone portable qui interférence avec des enceintes, par exemple. Mmh.
Donc là, c'est une sorte de...
Très dangereux, les ondes, hein. aussi.
Une sorte de mémoire sonore, voilà, qu'il propose. Alors c'est pas ça qu'on va écouter tout de suite, puisque y a pas d'enregistrement de l'œuvre qui sera présentée pendant les rencontres. Ce qu'on va écouter, c'est un travail qu'il a fait avec Jacques Bérocal, qui est trompettiste et chanteur, avec qui il travaille depuis longue date. Donc là, c'est quelque chose c'est un concert qui a été donné à la Villette, à Paris. Voilà.
Vous êtes bien à l'écoute du magazine de Radio Vassivière en ce jeudi après-midi. Et ça repassera ce vendredi matin et midi avec Natura et Ellie qui viennent de La Pommerie pour présenter Récits et logique des mondes qui se déroule la semaine prochaine à La Chaux, à Gentilly-Pigerol. Pendant ce morceau de son de Vincent Eplet, Natura a eu l'idée de revenir sur la notion d'écologie, notion qui guide votre action à La Pommerie. Alors l'écologie, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Ellie, peut-être que toi, t'es plus à même de répondre
d'accord,
à la question.
Alors,
sinon, moi, ça sera de l'art.
Non, en fait, le terme d'écologie, tel qu'on l'entend, nous, dans le cadre de l'association, c'est un terme très vague, dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Mais néanmoins, c'est un terme dont on a du mal à se passer parce qu'il reste évocateur. Et donc, pour répondre directement... écologie, on le prend de façon le plus générale possible, le plus vaste, c'est-à-dire une science des relations. Et on voit en quoi ça pose des tas de questions très différentes aux sciences humaines ou même à la philosophie, de privilégier des rapports plutôt que des sujets et des objets. Et en quelque sorte, ce qui guide à la fois notre travail lié aux conférences qu'on organise, mais aussi notre rapport à la musique, c'est travailler des rapports, travailler des relations, mettre des situations et comprendre comment ces situations sont situées, pour proprement parler. Donc, pour la philosophie, pour les sciences humaines, ça apporte beaucoup de choses. Et dans le cadre du sonore, par exemple, c'est souvent un exemple que je prends, puisque quand on dit la Pommerie fait de la création sonore, et ça a à voir avec les questions environnementales par rapport à la question musicale. Par exemple, là, on est ici dans un studio, on écoute probablement cette radio en mono ou en stéréo, c'est-à-dire que le son est produit pour arriver directement dans nos oreilles, et il est situé à l'endroit des haut-parleurs. La création sonore, c'est dire le son n'est pas un son en général, c'est un son qui a une situation, c'est un son qui habite l'espace. Et donc on va porter notre écoute plus sur les relations dans l'environnement du sonore, plus que sur l'oreille absolue ou l'écoute idéale.
Le premier jour, mercredi, une radio éphémère sera installée sur le site, c'est ça ? Ouais. Plusieurs personnes se succéderont pour lire un ouvrage.
Alors, juste pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ça, une radio sera installée sur le site pendant toute la durée des rencontres, pardon, comme l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une radio micro-locale qui rediffusera sur le site les conférences qui auront lieu dans la grange. Ça, déjà pour parler du plus général.
Que les personnes présentes pourront capter donc en
voilà,
se branchant sur la bande FM.
Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'année dernière, les cuisiniers qui étaient en cuisine pouvaient écouter les conférences en même temps qu'ils préparaient à manger. Des personnes qui étaient allongées dans l'herbe pouvaient écouter aussi les conférences. Il y a aussi ce dispositif-là qui permet aussi à des gens qui viennent avec des enfants, par exemple, d'être à la fois dans l'espace-jeu et d'écouter les conférences quand il y a cette envie-là. Et pour ce qui est du mercredi soir, là, c'est ce même type de dispositif, si ce n'est que... donc voilà, c'est juste...
C'est une proposition des Maloriaux. L'idée, c'est de lire un livre à plusieurs lecteurs, du début à la fin, sans s'arrêter. Donc c'est quelque chose, j'aurais envie de dire, c'est un dispositif qui n'a rien d'original, hein. Beaucoup ont eu cette idée, hein, de lire collectivement un livre jusqu'à ce qu'il soit terminé. Là, c'est organisé. Le choix du livre se fera le jour même.
Parmi cinq propositions
voilà,
que vous faites.
Voilà, parmi
cinq. Et qui sont
Qui seront secrètes. Et donc, ce soir-là, il y aura une salle installée d'écoute, un son direct. Agréable, un endroit confortable et des radios disposées sur tout le site. Et donc, c'est une lecture qui va prendre plusieurs heures. Et donc, le dîner est prévu pendant cette lecture. Voilà, un ensemble. C'est possible de se balader sur le site avec une radio, d'écouter cette lecture.
À sa manière. Et c'est aussi possible donc de lire. Les lecteurs ne sont pas définis au préalable. Les lecteurs se signalent simplement en s'asseyant à proximité de la personne qui est en cours de lecture, dites-vous dans le programme, et donc on peut s'improviser lecteur.
C'est ça. En fait, au contraire, c'est l'idée, c'est que chacun participe à la lecture.
C'est qu'il y ait plusieurs voix, quoi.
À propos d'écologie, est-ce qu'on peut dire que les invités et les thèmes choisis relèvent de l'écologie profonde ? Ça vous parle, ce mot-là ?
Bah, l'écologie profonde, c'est un concept bien précis qui a été développé par un philosophe norvégien qui s'appelle Arnes. À la fois, j'aime beaucoup Arnes, en même temps, c'est pas. C'est pas un terme qu'on emploie comme ça. Disons que, en général, il y a une dimension politique dans. Quand on va dire écologie profonde, alors pour reprendre sur le terme d'écologie profonde quand même, parce que sinon c'est plus de quoi on parle, pour reprendre le terme d'écologie profonde, pour dire ça très rapidement, chez Arnes, c'est une critique des politiques du greenwashing et des politiques de développement durable, où en quelque sorte on se pose la question de qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qu'on cherche à rendre durable, si ce sont des styles de vie qui compromettent toute autre forme de vie que la vie humaine et ses désirs, une certaine vie humaine et ses désirs. C'est une écologie qu'il appelle une slow écologie, une écologie de surface ou une écologie... ce qu'il va appeler écologie profonde, c'est au contraire un autre rapport aux autres êtres que les êtres humains et les milieux. Voilà. Alors bon, je vais pas développer ce que je cherche à dire ou ce que veut dire Arnes en employant la formule écologie profonde. En revanche, pour en ce qui concerne l'organisation de nos conférences en général et en particulier des rencontres, il s'agit effectivement de poser la question de qu'est-ce que l'écologie fait à la pensée. Et quand on dit qu'est-ce que l'écologie fait à la pensée, c'est-à-dire qu'est-ce que la crise environnementale globale, qu'est-ce que les changements globaux auxquels l'humanité et la planète est confrontée, qu'est-ce que ces phénomènes font à la pensée. Et qu'est-ce que ça pousse à penser. Et qu'est-ce que ça engage comme type de... propos politiques, propos ontologiques ou philosophiques, voilà.
Joël Zask est invité samedi matin, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler de son travail ? J'ai survolé un essai d'elle qu'on trouve sur Internet. Elle explique que Elle essaye de démontrer que le travail de la terre, qu'il existe dans le fait de cultiver la terre, des éléments qui prédisposent à l'essor des valeurs qu'on associe à la démocratie. Pourquoi vous l'avez invité et avec quelle idée? Joël Zask sera là samedi à 11h avec pour thème culture de la terre, culture de soi, culture du monde.
Ouais. En fait... Peut-être plus que parler de Joël Zask en particulier, je vais évoquer l'organisation du week-end et puis je vais revenir à Joël Zask. En fait, l'organisation du week-end, c'est une matinée, la première matinée des conférences est plutôt d'ordre politique. L'après-midi est plutôt lié aux questions biodiversité et tout ça s'organise. Et le lendemain, à des questions qui sont non moins politiques et non moins liées aux questions des milieux et des biodiversités, mais c'est par l'anthropologie et l'ethnologie qu'on va traiter ces sujets-là. Donc l'idée de commencer par deux conférences, donc celle de Bernard Asp et celle de Joël Zask, qui sont des conférences plus directement politiques, c'est en quelque sorte pour poser les bases qui nous permettent de réfléchir, enfin en tout cas ce qui généralement organise nos rapports au légitime et à ce qu'il est ou ce qu'il ne l'est pas, et aux transformations et à l'organisation, qui pose beaucoup de problèmes puisque c'est très situé, ce rapport-là au collectif, humain ou non humain. Et donc, dans le cadre de la conférence de Joëlle Zask, elle vient de la philosophie pragmatique, elle a étudié philosophie politique, et son dernier ouvrage, La démocratie au champ, propose, revisite l'histoire des révolutions, qui ont souvent été attribués aux conditions urbaines et dans les sociétés pré-industrielles.
C'est la vision de Marx où c'est le prolétariat dans les usines qui fait la révolution, et c'est ce qui s'est passé effectivement dans certains endroits.
Elle revisite, je dirais, cette fable historique pour proposer une autre lecture de l'histoire, et notamment en s'intéressant aux milieux ruraux et en quoi les milieux ruraux ont aussi, dans l'histoire, joué un rôle très important dans l'émancipation de certains groupes humains.
Je lis La démocratie au champ de Joëlle Zask. Donc, par exemple, la Food and Agriculture Organization a établi, donc qui doit dépendre des Nations Unies, a établi en octobre 2015 que la première forme d'agriculture dans le monde, l'agriculture familiale, est la gardienne d'environ 75% des ressources agricoles mondiales. Elle représente 500 millions d'exploitations, soit 9 exploitations sur 10, qui produisent plus de 80% de l'alimentation mondiale. J'avais pas idée de ces chiffres-là. Ça doit vous plaire, vous, de travailler à côté d'une ferme, d'être dans une ferme au quotidien ?
Oui, absolument.
Ça a du sens pour ce que vous faites ?
Absolument, c'est plus que ça. Enfin, maintenant, le site de La Chaux, on cherche à travailler de plus en plus ensemble. Hein. C'est-à-dire que c'est pas simplement un comment ça s'appelle aujourd'hui les...
Même si c'est peut-être pas une ferme familiale au sens traditionnel du terme.
Un coworking, voilà, c'est pas du tout un espace de coworking ou. On essaie d'établir des points de recoupement dans nos différents travaux et travaux de recherche. Absolument.
Oui. Donc vous avez du mouton.
Ça nous apporte énormément.
Du mouton, des kebabs maintenant aussi. Mmh.
Ouais. Sur le marché de Gensio. Mais ça, c'est une des choses, et d'ailleurs qui aura aussi le samedi midi pendant les rencontres. Mais ça, c'est une des choses aussi.
Qui est aussi d'ailleurs le site de la ferme de La Chaux, qui est recherche environnementale, élevage et menuiserie, atelier bois.
Mmh. Moi, j'ai toujours aussi, c'est peut-être une image un peu fantasmée, même si j'y suis à La Chaux, mais j'ai toujours envie de rappeler que Fred et Jo, ils travaillent ensemble, Frédéric Lagarde et Johanna Corbin travaillent ensemble, donc ils se sont répartis de cette façon-là, mais c'est toujours un travail qui est en mouvement des deux côtés, donc le travail de recherche en écologie et le travail d'élevage. Et pour nous, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est à un endroit... comment est-ce qu'on pourrait dire, d'être en prise avec je sais pas comment le dire,
avec une production concrète,
oui, avec la vie, quoi. Mm-hmm. Hein, que la pensée soit vraiment liée à ça, et au dispositif, à un dispositif de production aussi. Enfin, je m'exprime assez mal, mais
production donc de viande d'agneau. Mm-hmm. Et de savoir, d'observation, avec des études sur les insectes notamment.
Disons qu'en fait, nous, ça nous intéresse tout particulièrement à deux niveaux, disons de façon absolue, par rapport à notre travail d'organisation. Enfin, disons que la pommerie s'inscrit dans une dynamique, disons, d'université libre ou d'université populaire. Ça veut dire organiser des conférences qui établissent un certain rapport au savoir ou une transmission. Donc, nous, notre tâche en ce qui nous concerne, c'est la philosophie et les sciences humaines. Donc, c'est une manière de s'orienter dans la pensée, quoi. Et à côté de ça, tout le travail qui est fait dans l'ordre du sonore. Donc, la pommerie d'une part, mais nous, en tant que personnes habitant sur le territoire, travaillant aussi dans le cadre de la philosophie en dehors de la pommerie, puisque mon travail d'éditeur est entremêlé ou tressé avec le travail de la pommerie. Donc ça nous et l'atelier de géographie populaire, c'est-à-dire que pourquoi c'est très intéressant, en particulier le site de la ferme de la Chaux, parce que c'est à la fois une étude des milieux, un travail des milieux par l'élevage, mais c'est aussi poser une question qui intéresse, disons, l'historien ou l'anthropologue, de dire les paysages que nous habitons, que nous traversons, sont des paysages anthropisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mètre carré qui n'a pas été fabriqué par la main de l'homme ou façonné par la main de l'homme. Et donc, la façon dont nous cohabitons avec d'autres espèces ces milieux, c'est en grande partie lié à des changements provoqués par les habitudes humaines. Et donc, être sur la ferme, pouvoir comprendre le développement de cette biodiversité et des milieux, le travail de l'élevage, c'est aussi mettre à l'épreuve un certain rapport à la pensée et un certain rapport à l'histoire. Et voilà, donc c'est un site qui doit permettre de nous orienter dans nos rapports au monde.
Plusieurs centaines d'hectares rachetés par la communauté de communes à l'époque du plateau de Gensiou, et qui donc s'est fondue dans la communauté de communes Creuse Grand Sud, qui est toujours propriétaire des terres, des murs, des bâtiments, hein, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Alors, si je ne m'abuse, une partie des terres, non. Bon.
Non, c'est ça.
Tu t'abuses.
Ouais. Tout ça appartient à la communauté de communes.
Parmi les sons que vous avez apportés, nous allons écouter Raymonde Carrasco, une rétrospective sur cette cinéaste, mais juste avant, vous nous en dites, cinéaste défunte, qui ne sera pas présente, évidemment, vous nous en dites un mot.
Alors, elle ne sera pas présente, mais il y aura son mari, qui était le preneur de son de tous ses films. En l'occurrence, c'est un travail qui est vraiment à la fois un travail de l'image et du son assez important, quoi. On va dire ça comme ça. Elle, pour dire un mot, elle a. Ils ont été filmés depuis les années 70 dans une petite communauté au Mexique.
Les Tarahumaras.
Tout à fait. Et depuis les années 70 jusque dans les années 2000. Donc ils ont échelonné sur toute cette période-là réalisé plusieurs films, plus ou moins courts, dont on va en projeter deux, un qui date de 78, un qui date de 2003, donc qui couvre une assez large période. On pourrait en dire beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un qui aussi a apporté pas mal... au niveau qui a fait des expérimentations plastiques au niveau de l'image, qui a beaucoup travaillé l'image et qui a apporté ça au documentaire de son côté.
La croix et le soleil vont de pair. Et le soleil sautant est cette phrase tournante qui met si temps pour parvenir au jour. La croix est un signe abject et qu'il faut que la matière brûle. Pourquoi abject ?
Nous sommes toujours dans le magazine de Radio Vassivière en compagnie de Natura et Élie de La Pommerie, avec la présentation donc, de Récits et Logique des Mondes qui se déroule du 24 au 29 août à La Chaux.
Absolument.
Tu voulais dire quelque chose?
Non, simplement reprendre un petit peu le déroulé des rencontres. Donc, les rencontres se passent en deux moments, on pourrait dire trois. Il y a des ateliers en début de semaine, enfin, de mercredi à vendredi, c'est des ateliers en après-midi. Donc, les ateliers de géographie populaire, dont on parlait précédemment. L'atelier Internet Anonyma, qui est un rendez-vous, maintenant, des rencontres de La Pommerie. Chaque année, ils reviennent depuis 6 ans. Donc, ce sont des informaticiens, hackers, etc. Enfin bon, comme on les appelle en général. Et,
qui cette année mettront aussi dans l'atelier la fabrication de pochettes pour téléphone portable, pochettes en...
Alors, un petit peu comme tout bon hacker, l'informatique est un détail. Ce qui les amuse, c'est de traverser des murs ou dérouter des voies ou changer des habitudes, je veux dire, déstabiliser la normalité. Et donc, il y aura toujours un accompagnement d'installation de logiciels, de mettre à jour un certain nombre de notions et de techniques.
Pour utiliser Internet de façon, si possible, la plus tranquille possible, avec le moins de surveillance de la police et des marchands et du business, voilà, du business des données sur Internet. C'est quand même très important, ils ont fort à faire. Hein,
exactement, on peut dire ça comme ça.
Ce groupe.
Et pour absolument.
Venez avec votre ordinateur si vous en avez un, et pour les avoir déjà vus, c'est vrai qu'ils peuvent en une demi-heure, une heure, un peu plus peut-être, vous installer des logiciels, vous donner des conseils pour très pratique.
Voilà. Et donc pour revenir sur ce que Natura voulait dire, cette année, il n'y aura pas que l'informatique. Voilà. Cette année, il n'y aura pas que l'informatique, il y aura tout un ensemble de choses pour essayer de comprendre les réseaux, pour essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes de la finance aussi. Et notamment, il y aura aussi de la couture. Et l'idée est de confectionner des housses pour téléphone portable, de façon à ce que les téléphones portables ne puissent plus émettre d'ondes du tout. Voilà. Donc ça peut être très pratique parce qu'il y a une angoisse autour des téléphones portables, c'est quand est-ce qu'ils envoient des données GPS, est-ce que le micro est sur on ou pas, voilà, il y a beaucoup de choses qui, dans la technique, même quand le téléphone est éteint, dans la technologie, qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que à la fois les opérateurs et les fabricants de machines et les fabricants de logiciels sont en mesure de prendre totalement le contrôle du téléphone, toujours. Et donc l'idée, c'est de se confectionner une housse qui nous permet de reprendre le contrôle sur notre téléphone, en tout cas en ce qui concerne les émissions et réceptions.
On peut peut-être y mettre sa carte bancaire, parce que les cartes ont des puces RFID avec lesquelles on peut payer sans contact et donc communiquer. Bon, très intéressant, fabrication de housse, c'est pas dans le programme, mais vous faites bien de le rajouter, vendredi après-midi à La Chaux, avec ce collectif que vous ne nommez pas, Atelier Internet et Anonyma.
Alors c'est un collectif, en fait, en général, c'est RYBN, c'est un collectif qui s'appelle RYBN et la Beaumetia de Orléans. Et ils sont toujours arrivés comme étant l'atelier d'Internet et Anonyma. Et d'ailleurs, je crois que je viens de faire une connerie, parce que je crois me rappeler qu'ils ne veulent pas, en fait, être cités comme étant attribués à ces collectifs.
On n'a rien entendu. Et le soir, pour rester dans ce vendredi après-midi, on a des Allemands qui viennent de Leipzig et qui présente Derfisch, et vous l'avez jamais vu, j'imagine, vous non plus.
Non.
Gros spectacle, gros poisson, qu'est-ce que c'est?
Alors ça se passe, c'est un rendez-vous sur le site de La Chaux, et ensuite on lance la caravane, c'est-à-dire qu'on part, un petit peu à la manière free party, retrouver le fiche.
Voilà. On n'en dit pas plus.
On peut dire que c'est organisé.
C'est organisé avec la loutre.
Avec la loutre, par la loutre. Voilà.
cette association, La Loutre par les Cornes, basée au SAL, à Jansu. Ok. Il est encore temps de rajouter quelques idées, quelques infos sur ces rencontres, si ça vous vient maintenant. Au niveau pratique, on rappelle que ces rencontres sont totalement gratuites. C'est important, hein, c'est ça, enfin, en tout cas pour la personne qui veut venir. Après, on voit quelques logos, là, Union Européenne, Région Nouvelle-Aquitaine, etc. Il y a de l'argent en jeu quelque part, mais pour les personnes qui viennent... c'est gratuit et vous avez invité des gens du coin à faire à manger. Vous pouvez les présenter ?
Dire alors, qui c'est ? Il se trouve que des gens du coin qui vont faire à manger le dimanche midi, on est à un moment, on a décidé cette période des rencontres de façon réfléchie, mais en essayant de faire des choses à un moment où il n'y avait pas trop d'événements prévus en début d'année, il se trouve qu'en fait il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues et donc c'est aussi compliqué de réunir des personnes du coin qui ont envie de faire à manger à ce moment-là, d'autant plus que la plupart des réponses c'est « Ah ben si on vient, on a envie d'écouter les conférences
». Ah d'accord, donc j'ai dit une bêtise, donc il y a les 4 de gens qui font à manger le dimanche midi.
Voilà, le dimanche midi...
C'est payant par contre les repas, bien sûr.
Ouais, il y aura des pizzas le dimanche midi. Johanna Corbin qui fera les kebabs le samedi midi.
Les kebabs du plateau de Mille Vaches.
Ouais. Et le soir, donc avec la viande de la ferme de la Chaux, évidemment. Et le soir, donc, ça sera une personne, le week-end, ce sera une personne de Bourges qui viendra faire à manger avec un menu très alléchant qu'on mettra en ligne dans très peu de temps avec salade thaï, viande marinée, boulgour et des oreillons de pêche en sauce, etc. etc. En semaine, ça sera deux personnes de banlieue parisienne qui viendront préparer à manger. Voilà. Donc on n'a pas encore le menu qui est fixé. On sait qu'il y aura des côtelettes le vendredi soir, avec un menu végétarien toujours avec. Voilà. En tout cas, c'est un moment qui est très important pour nous, qui est un moment d'échange,
En fait, oui, c'est très important, les repas. Un mot quand même, l'essentiel, comme ça se fait beaucoup, l'essentiel des produits sont des produits locaux. Effectivement, les repas sont des moments importants. Je dirais qu'il y a la possibilité aussi de venir pour les repas. Enfin, on ne veut pas débaucher, les flux des restaurateurs, hein, mais disons que c'est aussi des moments où la parole se place différemment. Il y a possibilité. C'est là où se jouent les rencontres, d'une certaine façon. Il y a les conférences, et puis il y a les moments à côté des conférences où les prises de parole sont plus simples aussi pour des personnes qui ont aussi des difficultés à parler. À parler en public, ça permet de pouvoir poser sa question, ça permet de se mettre plus à l'aise. Voilà. Donc, les repas sont des moments importants et c'est vrai que c'est bien de les mettre en avant.
Les conférences, vous les enregistrerez, Radio Vassivia les diffusera dans l'année, au fur et à mesure de nos dimanches après-midi de conférences, a priori. On va peut-être écouter à nouveau un morceau de musique que vous avez amené de Thomas Tilly, une fois que vous nous dites ce que c'est.
Alors Thomas Tilly, c'est quelqu'un qui est venu en résidence à la Pommerie, qui travaille avec des enregistrements de sons qui sont pris dans des milieux, dans des espaces, quoi.
En fait, Thomas Tilly, c'est ce qu'on appelle en son, du field recording, ça veut dire prendre des sons.
Field le champ, ouais. L'espace. Mmh.
Recording, c'est on prend des sons ou un travail naturaliste, c'est-à-dire on prend des sons avec les micros, qu'est-ce que le micro capte, et on travaille avec ce que le micro capte. Alors ça a donné beaucoup d'enregistrements naturalistes, des paysages sonores, on a appelé ça des paysages sonores. Lui, il a un rapport à la technique, c'est-à-dire à ce qui est capable de rendre un micro singulier, c'est-à-dire qu'il utilise des micros qui vont attraper des sons dans des très très hautes fréquences ou des très très basses fréquences, des sons qui vont être des sons, des micros qui captent des sons sous l'eau. Et à partir de ces sons, il va pas du tout faire du paysage sonore traditionnel, c'est-à-dire où on entend les oiseaux, puis tout d'un coup le vent souffler dans les arbres. Il va s'intéresser à des sons qui produisent quasiment des fréquences pures. Alors je sais pas si c'est vraiment ça va ressembler à le morceau qu'on va diffuser là, je sais pas vraiment si ça va ressembler à ça, mais disons qu'il va mixer à partir de ces sons naturels, bruts de micro, et en fabriquer de la musique qui pourrait faire penser à de la musique pulsée, rythmée, comme de la musique électronique.
Quoi. Sachant que là, c'est diffusé en milieu naturel, en quadriphonie, et ces sons qui sont amplifiés, c'est vraiment quelque chose d'une expérience assez belle à faire.
Rappelons à quel moment des rencontres ça se déroule.
C'est à 18h le vendredi.
18h30 vendredi après-midi, après l'atelier Internet Anonymat.
Tomati. C'était Excerpt for a Composition for an Environment de Tomati sur Radio Vassivière. Samedi soir, samedi 27 août, à 21h30 à La Chaux, vous pourrez aller voir la performance audiovisuelle de Samon Takahashi qui s'intitule Helveticalia, l'invention du Brésil par les Suisses. c'est une conférence performance audiovisuelle sur l'identité suisse du Brésil et la naissance du trading international de commodités. La conférence Helveticalia est une fiction sur l'identité brésilienne supposée être nourrie par des origines suisses. Paris et Sao Paulo se rejoignent ici en tant qu'invention identitaire. Sera suivi de Tropical Pen, l'effroyable vérité. Qu'est-ce que c'est donc que cette performance et qui est Samon Takahashi?
Alors, sa performance, je peux pas en dire grand-chose parce que je la connais peu, quoi, pas plus que le texte.
Principe d'une performance, elle se répète pas forcément.
Exactement, souvent. Exactement. Alors, Samon Takahashi, c'est quelqu'un du sonore. C'est quelqu'un du sonore qui est un ancien de la création sonore et de la musique expérimentale. Il anime une émission sur Radio Libertaire diffusée
à Paris,
qui est l'une des plus anciennes émissions de Radio Libertaire, qui s'appelle Epsilonia. Et cette émission qui a bercé nos soirées, nos nuits des jeudis soirs ou vendredi soir, à l'époque où c'était vendredi soir, je crois, qui est des découvertes, c'est un grand découvreur de musique expérimentale et de création sonore. C'est des émissions de deux heures, d'écoute extraordinaire, comme Radio Libertaire. C'est le faire dans ce type de conditions. Et Samon Takahashi est aussi donc quelqu'un qui est dans le monde du sonore et de la musique expérimentale. Et donc là, cette performance donc, que je ne connais pas, c'est une performance audiovisuelle sur un fond ironique. Nous, on souhaitait l'inviter et il nous a proposé cette performance. On a tout de suite adhéré parce que ça rentre complètement dans le cadre de Récit et Logique des Mondes, qui, d'une manière ou d'une autre, questionne nos rapports au lieu que nous habitons, les rapports identitaires, mais les rapports au lieu que nous habitons.
Certains chercheurs, certains artistes n'ont pas encore été cités dans notre émission de présentation des rencontres Récits et Logique des Mondes à la Pommerie du 24-29 août. Il est temps maintenant de les citer, ceux qu'on a sautés. Qu'est-ce que c'est que le rapport de 1978 que présentera Raphaël Larère? Désertification ou annexion de l'espace rural, l'exemple du plateau de Mille Vaches.
Alors c'est un rapport qui était commandé par l'INRA au milieu des années 70.
L'Institut National de la Recherche Agronomique.
Voilà, pour lequel Raphaël Larère travaillait. Et c'est un rapport qui a eu une importance, je dirais, qui a dépassé le simple cadre de la planification agricole nationale, parce que il a posé les pratiques agricoles, enfin il a posé la question des espaces ruraux dépeuplés, et il a pris l'exemple du plateau Mille-Vaches comme un lieu où il peut être possible de penser le fait de habiter à nouveau ces territoires. Et Raphaël Larère est aussi connu pour le travail qu'il a fait avec sa femme, Catherine Larère, un passeur de la philosophie environnementale américaine. Et donc, il est aussi l'auteur de plusieurs livres liés à la philosophie de l'écologie. Voilà.
Il avait donc travaillé sur le plateau de Mille Vaches dans les années 70, sans y habiter, et là il revient.
Alors, il n'est jamais revenu sur le plateau de Mille Vaches depuis l'étude qu'il a menée dans les années 70.
Intéressant, mercredi après-midi, samedi 27 voilà. Août
donc,
après-midi.
Et donc, c'est par exemple un rapport qui est cité dans le rapport sur l'état de nos forêts, que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent. Ce petit livret qui a été réalisé, écrit sur les forêts du plateau. Et donc c'est un personnage assez singulier. Il n'est jamais revenu sur le plateau de Mille Vaches. Et là, moi, je lui ai proposé peut-être de nous raconter son expérience des années 70 et puis évidemment de toucher à des choses qui sont plus actuelles pour lui aujourd'hui.
Autre sujet polémique, problématique. Peut-on se passer des pesticides? Joël Lallemand sera autour de cette même table ronde. ce même samedi. Elle fera un état des lieux des problèmes sanitaires, environnementaux et même agricoles posés par l'utilisation des pesticides. Elle donnera aussi des pistes pour des alternatives plus durables en agriculture et discutera des raisons pour lesquelles elles ne sont pas mises en œuvre.
Mmh. Ouais.
On a présenté.
Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter.
Elle non plus n'est pas du plateau du Limousin, non. Mais vient parler des pesticides.
Absolument.
Le dimanche matin, Martin Préau, pareil, qui est-ce ?
Alors, en fait, la journée du dimanche sont rassemblées les conférences qui sont plus liées aux questions, enfin, disons, aux approches ethnologiques. Et aux questions autochtones. Et donc, disons qu'on on aborde la complexité des rencontres. Parce que ces rencontres sont censées devenir un cycle, récit et logique des mondes est censé devenir un cycle de conférences, un cycle d'études qui se dérouleront sur un certain nombre d'années peut-être. Et la volonté, dans le cadre de ce moment un peu inaugural, était de partir de l'ailleurs, partir des études ethnographiques pour penser les rapports à l'habité. Et les questions qui sont fondamentales, qui sont liées aux politiques de développement et aux rapports, je dirais, différents dans les différentes cultures, c'est la question de l'autochtonie. Et la question de comment se jouent les droits autochtones chez les peuples indigènes, de quoi ils sont porteurs. C'est un sujet qui nous paraît fondamental parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas importer. Parler d'autochtonie ici nous semble compliqué. Et ce qui, ailleurs, permet de sauvegarder un certain nombre de pratiques, de cultures et d'environnements, ici, pose question, pose problème. Et travailler ces relations, qui sont des relations juridiques, qui sont des relations, au monde et à la magie aussi, c'est-à-dire à des formes profondes d'étude des rêves, de pratiques de chasse, etc., etc. Les mettre en relation avec la façon dont nous habitons un espace, occupons un espace. L'ethnographe, disons, nous, et l'ethnologue nous amène des éléments qui nous font douter, qui mettent en question nos propres pratiques. Et c'est en ça que cette journée du dimanche doit en quelque sorte être une journée qui produit de l'incertitude de façon à ensuite s'ouvrir sur d'autres choses.
Donc Martin Préau viendra nous parler de ses nombreux séjours en Australie auprès des aborigènes. Florence Brunois Pasina, en Papouasie, son terrain, elle, c'est la Papouasie. Denis Chartier, je ne sais pas. Natasia Martin revient d'Alaska. Stéphanie Tseluiko d'Amazonie. Et Résistance et Intelligence Collective, Chaos. C'est difficile à prononcer, hein, les nombreux invités.
De Sarayaku.
Pour moi. Où ça se trouve ?
Amazonie aussi.
En Amazonie aussi.
Ouais.
Pour donner une idée de la variété des...
Alors, je peux dire quand même aussi un point de...
Des endroits dont viennent tous ces gens.
Juste pour conclure, parce que là, un point, c'est que tous ces anthropologues ont en commun d'aborder leur terrain, ce qu'on appelle un terrain en anthropologie, par l'environnement. Et disons... L'anthropologie, comme toute relation au savoir, à la fabrication de connaissances, a ses doutes, ses abîmes, ses risques, ses horreurs, etc., etc. Le groupe d'anthropologues qui seront présents ce dimanche, 28 août, ont en commun d'étudier en particulier les rapports aux environnements et à l'écologie. Voilà. C'est-à-dire ce qui est devenu un peu le mot habituel qui est les non-humains, quoi.
Florence Brunois-Passina, qui était déjà venue l'année dernière pour les rencontres, et qui avait fait une conférence très suivie et très appréciée, et qui va cette fois-ci présenter un autre aspect de sa recherche.
Disons qu'en fait, un petit peu comme on l'évoquait tout à l'heure avec Arnès, il y a un fond critique dans cette journée quand même, ou un fond de questionnement, disons, qui est les rapports aux politiques de développement. En quelque sorte, peuple autochtone, rapport à l'occidentalisation et aux politiques de développement. Voilà. Ce qui est mis en doute, c'est la transformation de toute relation au monde par des normes. Des logiques qui sont des logiques pour la plupart d'ordre comptable. Et les récits que nous rapportent ces ethnologues sont des récits où on ne compte pas, en quelque sorte. Des récits où les relations au monde ne sont pas des relations de ce type, de cet ordre.
Et le lundi matin, on terminera par un rendez-vous en fin de matinée autour d'un déjeuner improvisé par chacun pour poursuivre la discussion et évoquer la suite, car vous l'avez rappelé, c'est un cycle et ça ne se terminera pas le lundi 29 août, mais le cycle continuera. Merci à vous d'être venu au micro de Radio Assis présenter ces rencontres. Merci. Vous pouvez encore ajouter quelque chose si vous voulez, d'ailleurs.
Oui,
avant de prendre l'antenne.
Le programme est disponible sur le site de la Pommerie, comme la
pommerie.org.
Voilà, et effectivement, peut-être un mot rapide sur l'idée du 29 août. Il y a plusieurs choses qui, notamment l'atelier de géographie populaire et le groupe de travail qu'on aimerait constituer, et avec un collectif qui est qu'on ne détermine pas. Cette journée, cette matinée du 29 doit être l'occasion pour des personnes désireuses de participer à ce qu'on organise, de venir nous rencontrer et on peut de manière à discuter. Quand je parle de groupe de travail, le groupe de travail n'est pas non seulement n'est pas formé, mais les contours même restent à définir, et donc c'est pas à nous de le décider, c'est le collectif qui se formera qui en décidera.
Je viens de me rendre compte d'un petit oubli par rapport au repas. On a parlé des repas payants. Alors certes, c'est payant vendredi, samedi, dimanche, c'est prix libre le jeudi et le mercredi et le jeudi. Il y a un prix qui est fixe le week-end et un prix qui est libre.
Voilà, merci pour cet accueil et peut-être à la semaine prochaine sur la ferme de la Chaux, à Jansiou, puis je rôle l'homme.